L'apparition du jeune marquis de Saint-Loup-en-Bray fut l'occasion, le vendredi matin, de s'initier à un procédé littéraire cher à Proust, l'évocation d'une impression qu'il présente pour mieux la certifier comme fausse, avant, bien plus tard, généralement dans un autre volume, qu'elle se révèle vraie. Ainsi de ce nouveau personnage, essentiel dans la saga. À cause de son chic, de son impertinence de jeune lion à monocle, à cause de son extraordinaire beauté surtout, certains lui trouvaient même un air efféminé, mais sans le lui reprocher, car on savait combien il était viril et qu'il aimait passionnément les femmes. En attendant, l'auteur emberlificote son lecteur, que je t'embrouille ni vu ni connu. Quelques pages plus loin, il use d'une méthode semblable pour qu'on l'en croie au parti pris de virilité du baron de Charlus, qui fait à son tour son entrée dans le récit, ce qu'il reprochait surtout aux jeunes gens d'aujourd'hui, c'était d'être trop efféminés. « Ce sont de vraies femmes, » disait-il avec mépris. Mais quelle vie n'eût pas semblé efféminée auprès de celle qu'il voulait que menât un homme et qu'il ne trouvait jamais assez énergique et viril. Lui-même, dans ses voyages à pied, après des heures de course, se jetait brûlant dans des rivières glacées. Il n'admettait même pas qu'un homme portât une seule bague. La suite montrera que l'homme est l'archétype de l'inverti. Entre les deux, une variation dans les éditions de la recherche suscita l'émoi de quelques proustologues. À propos de la façon de saluer de Saint-Loup, Proust avait écrit, si l'on suit Fabrice, « comme le geste de parer un coup ou de fermer les yeux devant un jet d'eau bouillante et sans le préservatif duquel il y eut eu péril à demeurer une seconde de plus. » Un « oh » offusqué fusa dans la salle. C'était le cri d'un adepte tenant d'une autre version. Bouillante et sans le préservatif de laquelle il y eut péril à demeurer une seconde de plus. Le récitant qui avait lu les différentes éditions reconnut là le texte de la NRF de 1918. Ainsi s'écoulaient les heures entre l'écoute profane du plus grand nombre qui n'avait jamais ouvert un livre de Proust et celle initiée des familiers du texte. La matinée terminée, on remarqua une équipe de Canal+ qui s'affairait autour de quelques personnalités ayant fait le déplacement de Cabourg. Certaines étaient venues de Paris, d'autres en voisine de Deauville. Celles-là n'étaient pas les plus attentives. Les auditeurs, comme tous les jours, se voyaient proposer de faire escale au Balbec ou à la Belle Époque. Rituel des rituels, à 15h, Fabrice Pelletier reprit sa longue récitation. L'attention du public ne faiblissait pas. Qu'il s'agit des habitués, en quelque sorte des abonnés, venant d'une demi-journée à l'autre régulièrement, et qui ne voulaient rater aucun mot, aucune tournure, aucune note faisant des paragraphes, des morceaux de musique, ou que ce fussent des auditeurs découvrant l'œuvre, et qui, outre le respect qu'ils voulaient lui signifier, saluaient le tour de force auquel ils assistaient. L'intéressé redoutait secrètement l'effet de formulation dépréciative à propos de la famille Bloch et des Israël. Il se réjouit en revanche d'un zeugma dont Proust a le secret, qu'aucun, celui-ci, fit bien rire l'assistance quand Bloch confie à propos de Madame Swann. Je l'avais rencontrée quelques jours auparavant dans le train de ceinture. Elle voulut bien dénouer la sienne en faveur de ton serviteur. Ramam, tout safari dans son genre à Jamel. Une autre formule fit mouche autour de lui et chez les riverains de Cabourg. Le bas peuple, qui, au point de vue de la grossièreté, ressemble si souvent au grand monde. Ni les uns ni les autres ne savaient quelle contenance prendre, et tous s'en tinrent à une moue contrite qui pouvait ressembler à une profonde réflexion. Fabrice prenait ainsi en permanence le pouls de celles et ceux venus l'écouter. À tout moment, il pouvait imperceptiblement ralentir son débit ou l'augmenter, hausser la voix ou la baisser, bouger moins ou davantage, en fonction des bourdonnements et mouvements de la salle qu'il ressentait clairement. Les nuances de l'écoute lui faisaient penser qu'une part de dialogue se glissait, complice, dans le monologue qu'il offrait. Ses pensées le déconcentrèrent-elles ? Toujours est-il que, pour la toute première fois, il trébucha sur un mot, évoquant les troubles relations entre Saint-Loup et sa comédienne de maîtresse, il eut à prononcer les mots « Kodak » à Pax dans la bouche du marquis. Et quelques secondes plus tard, « Tocade », c'est là que sa langue fourcha. S'il prononça bien la marque d'appareil photo, il lâcha ensuite « Cotade ». Certes, il n'y avait pas mort d'homme, mais il n'avait jusqu'à présent jamais eu à reprendre un mot. Cet écart l'incita, si besoin en était, à ne décidément pas relâcher sa vigilance. C'était d'autant plus nécessaire qu'approchait un morceau de bravoure. La description des fillettes, telle une bande de mouettes sur la digue de Balbec, dont une certaine mademoiselle Simonet. Il est question là d'un banquier par-dessus lequel saute une des jeunes filles, Gisèle, et de l'expression d'une autre, ce pauvre vieux, il me fait de la peine, qui deviendra, il me fait de la peine, ce pauvre vieux. Puis, ce pauvre vieux me fait de la peine. Ce sont de telles différences qui avaient aidé Fabrice à s'approprier l'ensemble du texte monumental en le parsemant d'aspérités inattendues. C'est là aussi que se trouve une incidente de 74 mots entre parenthèses sans le moindre signe de ponctuation, qui lui donnait un aspect si pauvre et démentait tellement sa tournure élégante que l'explication qui se présentait à l'esprit était que cette jeune fille devait avoir des parents assez brillants et plaçant leur amour-propre assez au-dessus des baigneurs de Balbec et de l'élégance vestimentaire de leurs propres enfants pour qu'il leur fût absolument égal de la laisser se promener sur la digue dans une tenue que de petites gens eussent jugée trop modeste. Et cinq virgules se suivant, rapprochées dans une phrase. Celle, virgule, d'ailleurs, virgule, qui, virgule, me semblait-il, virgule, aurait pu devenir ma maîtresse. À la fin de la séance, ce fut comme une consécration. Canal Plus diffusait la séquence tournée la veille pour le petit journal de Yann Barthès, qui s'était déplacé la veille à Cabourg. L'équipe avait retenu la poignée de main aristocratique du baron de Charlus, repliant le petit doigt, l'index et le pouce me tendaient le troisième doigt et l'annulaire. Dixit le héros. Les personnalités présentes étant été priées de l'imiter, c'était couru. Les doigts d'honneur, le majeur seul tendu, furent plus nombreux que les bonnes postures. Abonné au score de défaite, Nicolas Dupont-Aignan avait, lui, de l'index et du majeur, dessiné le V de la victoire. Dans la rue, l'attitude du succès. À peine moins rituelique qu'une poignée de main de franc-maçon à ne pas révéler, ou qu'un chèque de gangsta rappeur, tapé dans la main à plat avant d'entrechoquer les poings fermés et de se frapper la poitrine à la place du cœur, ou consistant à claquer des doigts simultanément tout en se serrant la main en tapant son pouce sur la main de l'autre.